sur place, aucune prise en compte de la réalité du changement climatique, c'est le sentiment général qui a prévalu mi-décembre lors de la clôture de la COP24. La conférence des parties sur le climat, qui se déroulait à Katowice en Pologne, a accouché d'une souris. Limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré semble aujourd'hui compromis. Face à l'inertie des dirigeants de la planète, reste l'action des citoyens. Bonjour Jérémy Chaumette.
Bonjour.
Directeur de France Liberté. Alors cette COP24 s'est tenue après une nouvelle alerte du GIEC sur l'urgence climatique. Tout d'abord, rappelons quelle était la mission de cette COP24.
Alors la COP24, elle fait suite, bien entendu, COP23 et 22 avant, mais surtout à la COP21 de Paris, puisqu'il y a eu un accord à Paris. Et là, il s'agissait, pendant cette COP24, de se mettre d'accord sur les règles d'application de l'accord de la COP21. Donc en gros, en quelles mesures vont être prises par chaque État pour arriver collectivement à rester sous la barre des 2 degrés à la fin du siècle.
Donc ce qui a été signé mi-décembre, c'est juste une manière d'acter l'accord de Paris sans aller plus loin?
Alors, c'est un petit peu plus que ça. C'est-à-dire quand même qu'il y a des règles de mise en œuvre qui ont été votées et donc qui ont été adoptées, ce qui n'était pas gagné. La difficulté, c'est que ces règles sont encore loin d'être suffisantes pour permettre d'arriver à moins 2 degrés. Avec ces règles-là, les plus optimistes, c'est-à-dire le GIEC, pensent qu'on arrivera à 3 degrés d'ici la fin du siècle.
Accord à minima, sans ambition, urgence ignorée, compromis sans éclat. Les critiques sont nombreuses après un accord qualifié de gâchis énorme. En quoi ce qui a été conclu à Katowice est décevant, voire inquiétant?
Mais on a la sensation qu'il n'y a pas une prise en compte vraiment des difficultés actuelles. Par exemple, il a fallu plusieurs jours pour se mettre d'accord s'ils saluaient le rapport du GIEC ou s'ils l'accueillaient. C'est-à-dire s'ils disaient oui, il existe, ou s'ils étaient d'accord avec lui, alors que c'est plutôt un rapport assez, presque malheureusement assez optimiste. En tout cas, c'est pas le pire des rapports. Et puis après, il y a eu beaucoup de discussions, c'est toujours la même, sur qui doit payer. Et par exemple, si on prend l'exemple de la Turquie, jusqu'au bout a essayé de rentrer dans les nations qui devaient recevoir de l'argent pour mettre en place les accords de Paris et pas dans ceux qui doivent payer.
Et puis à noter notamment la quasi-absence de représentants du gouvernement français, c'est un signe inquiétant?
Ce qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'à la session de clôture, il n'y a pas eu de représentants ministériels. C'est-à-dire qu'on avait un délégué, mais il n'y avait pas le ministre, ce qui est de l'environnement. Il y a eu Brune Poirson, qui est secrétaire d'État, mais on n'a pas eu de représentant élevé du gouvernement, ni Premier ministre, ni ministre de l'Environnement. C'est-à-dire que déjà, qu'il n'y ait pas le Premier ministre ou le Président soit inquiétant, mais le ministre de la Transition écologique, c'est quand même un signe très très inquiétant lancé par la France. Et on n'a pas d'explication à l'heure actuelle. C'est assez difficile de vraiment comprendre, parce que c'était quand même pas très compliqué d'aller jusqu'en Pologne. Donc oui, c'est un signe de désintérêt. C'est assez grave.
Alors le contexte dans lequel s'est tenue cette COP24 en Pologne, pays très carboné avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, celui probable du Brésil, le poids des lobbies, est-ce que tout ça a pesé sur la COP24? Est-ce que cela compromet clairement la limitation du réchauffement climatique?
Ah oui, clairement. Il n'y a pas une vraie volonté des États. On sent que tout accord est difficile à atteindre. Il a fallu 2 jours de plus pour arriver à un accord qui est très minimal, où le Brésil remet en cause des principes qui étaient acquis, hein, notamment sur les questions d'échange de carbone. La Turquie qui essaie de changer de groupe. Donc on voit que tout ça est compliqué, qu'il n'y a pas une réelle volonté. Et donc on a eu 2 faits très marquants, je dirais, qui sont venus de l'intérieur de la COP, mais plutôt de ceux qu'on entend peu. Donc le premier, c'est les pays vulnérables, notamment les pays insulaires, qui ont appelé à la rébellion pour empêcher l'extinction carrément de leur pays, même voire de l'humanité. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu une première pendant les COP, vraiment d'avoir un discours aussi fort. Et puis le deuxième discours très très fort est venu d'une jeune lycéenne qui a appelé les étudiants, du collège et du lycée, à se mettre en grève pour dire que les adultes ne font rien contre le changement climatique. Mais du côté des États, on a l'impression que rien n'avance, et beaucoup d'organisations de la société civile appellent bien sûr les États à agir, mais aussi appellent à sortir les lobbies de ces négociations, puisque les grosses entreprises et les multinationales sont toujours présentes, et par leur lobby, elles empêchent d'atteindre certains accords.
Alors il y a les atermoiements des gouvernements, face à ça il y a eu cet appel très fort de la jeune Suédoise, vous l'avez dit, à la tribune de la COP24, il y a les mobilisations citoyennes, les marches pour le climat, est-ce qu'on peut y voir un contrepoids, une forme d'espérance, est-ce que tout ça c'est un bon signe?
Oui, il est évident qu'il faut reprendre espoir, hein, c'est probablement ce qu'amènent ces marches. Elles amènent la dimension de masse, c'est-à-dire ne pas se sentir seul face à ces événements qui sont très difficiles. Et elles invitent aussi à forcer les États à prendre des décisions beaucoup plus ambitieuses. Et c'est vrai que beaucoup d'acteurs aujourd'hui se disent que ces démarches sont une première étape, hein. Je pense bien sûr aux marches, c'est ce qu'on a entendu parler ici en France, mais qui sont faites un petit peu dans différents pays, qui permettent de mobiliser la société civile. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs appellent à quelque chose de plus fort. On voit au Royaume-Uni le mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, qui s'est lancé, où là on appelle à des actions de désobéissance civile, c'est-à-dire à bloquer vraiment des lieux pour obliger les États à prendre des décisions beaucoup plus importantes.
Alors parmi ces mobilisations citoyennes et d'associations, on le rappelle, il y a votre plaidoyer eau et climat. Il s'inscrit dans cette dynamique, dans cette espérance citoyenne. C'est un des outils de mobilisation ?
Oui, bien sûr. Alors ce qui est très intéressant dans notre plaidoyer, c'est de montrer qu'il y a des solutions qui sont envisageables et des solutions qui ne demandent pas une technique extraordinaire, mais plutôt de revenir à des choses assez simples, notamment à permettre de rendre l'eau à la terre, de restaurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos territoires, un petit peu partout dans le monde, sont bétonisés. Et en débétonisant et en rendant perméables nos territoires, on peut permettre, à travers l'eau qui s'infiltre et en retrouvant un cycle local normal de l'eau, de combattre le changement climatique. Et on a des exemples absolument extraordinaires, notamment, je pense au Rajasthan, où là, l'action très simple de villageois sur du temps, hein, sur plus de 20 ans et sur un territoire assez conséquent, ont permis de combattre la sécheresse en faisant revenir le cycle de l'eau et de combattre le changement climatique. Donc il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que quand les citoyens du monde entier s'impliquent, on a des changements, mais que cela ne peut pas venir que des citoyens et qu'il faut forcer aussi les États à agir et qu'ils ne le feront pas d'eux-mêmes si les citoyens ne les bougent pas. Donc il faut une action conjointe et puis on a aussi des jeunes entreprises qui aussi, elles bougent. Donc il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se font, et c'est ce qu'on montre dans notre plaidoyer eau et climat.
Et ce plaidoyer eau et climat est à retrouver sur france-liberté.com. Merci Jérémy Chaumette.
Merci beaucoup.
Monde solidaire à retrouver sur ecolodio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.